Merci d'écouter RFI. Il est 4h30, ici à Paris, 3h30 en temps universel.
Arthur Ponchelet.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, on est ensemble pendant 30 minutes pour faire le tour de l'actualité africaine de ce jeudi 16 janvier. Et on commence avec le journal. À la une, il promet de surmonter les obstacles et de transformer la douleur en prospérité. Au Mozambique, Daniel Chapo a été investi président de la République hier. Une cérémonie après des mois de contestation post-électorale et dans un contexte tendu, toute tentative de manifestation a été réprimée hier à Maputo. La demande de disqualification de la candidate du pouvoir à la mairie d'Antananarivo, rejetée par la justice. Requête formulée par Toudz Ravalmanan, le candidat de l'opposition dans la capitale malgache. Son avocat fait part ce matin de son incompréhension. Il dit avoir apporté les preuves d'irrégularité dans le scrutin. João Lourenço à Paris, le président angolais est en visite d'État en France. Et dans ses valises, des contrats qui attendent d'être signés, notamment dans le domaine des satellites et de l'assainissement. Au sommaire également, on sera en RDC, où les responsables catholiques et protestants appellent un pacte social pour la paix. Et puis au Kenya, où a eu lieu le tirage au sort du CHAN hier, 19 équipes, 4 groupes pour le tournoi. On vous dit tout à la fin de ce journal. Après des mois de contestations post-électorales et des manifestations réprimées dans le sang, au Mozambique, Daniel Chapo a été investi président de la République hier. Une cérémonie alors que son élection est toujours très contestée et que l'opposition avait appelé à 3 jours de grève nationale. David Bachet.
Devant la place de l'Indépendance se forment de longues files d'attente. Des partisans de Daniel Chapo et quelques curieux sont venus assister à l'investiture.
Je suis très heureux, c'est notre président. Il mérite de diriger le pays avec respect.
C'est très important, surtout en ce moment, que le pays ait un dirigeant fort.
Moi, je suis là pour les 500 métikaïches qu'on nous a promis. Je n'avais rien d'autre à faire.
C'est dans une ville déserte que le nouveau président prête serment. L'appel à la grève générale est largement suivi. Daniel Chapo assure qu'il entend son peuple et promet du changement.
Je sais que beaucoup estiment que les dirigeants sont des personnes inaccessibles et détachées des préoccupations du peuple. Tout cela va changer. Nous sommes ici pour servir et non nous servir.
Dans le centre-ville, très vite, des tirs retentissent. La police disperse chaque embryon de rassemblement. Daniel et Fidelic sont excédés.
Ce sont des bandits, des criminels. Ils ont tué 3 personnes aujourd'hui. C'est normal, ça ? Les voitures sont arrivées et ils ont tiré. Pan, pan, pan. On ne l'acceptera pas. Ils ne gouverneront pas par la force.
On n'a pas peur. La mort, ce n'est rien. On veut la vérité électorale. On est déjà mort depuis longtemps.
Selon la société civile mozambicaine, la répression de la contestation a déjà fait plus de 300 morts.
Selon l'ONG locale Plataforma Decidé, les manifestations ont fait 7 morts hier à Maputo. Et si Daniel Chapo prolonge donc le règne sans partage du Frelimo au pouvoir depuis 50 ans, l'opposant Venancio Mondlane, lui, continue de revendiquer la victoire. Revenu d'exil il y a une semaine, il s'est exprimé hier sur les réseaux sociaux. Il promet d'annoncer vendredi plusieurs mesures gouvernementales à engager durant les 100 premiers jours de son mandat. À Madagascar, on devrait connaître demain, vendredi, les résultats définitifs des élections communales. Semaine particulièrement chargée au tribunal administratif de Tana, avec d'abord les audiences publiques pour entendre les plaidoyers des avocats, des candidats ayant engagé des recours en contentieux électoraux. C'est notamment le cas de Toudz Ravalmanan, le fils de l'ancien président était candidat à la mairie de la capitale. Il a perdu face à la candidate du régime selon les résultats provisoires de la CENI, mais dénonce des irrégularités et des violations de la loi. Le candidat du team réclamait donc l'annulation des voix obtenues par sa concurrente et donc sa disqualification. Requête rejetée officiellement hier, sans motif pour maître Hubert Harrison, l'avocat du candidat.
Refuser notre requête, je ne comprends pas du tout. Nous ne sommes pas satisfaits parce que nous avons apporté des moyens très sérieux pour prouver les irrégularités et les anomalies lors de cette élection municipale. Des exploits tissés, des photos, des témoignages. Je ne sais pas quelles sont les motivations de la décision. Et j'attends voir d'abord la version écrite de la décision pour essayer de comprendre. Ils vont faire la notification cette semaine ou la semaine prochaine, mais nous allons réfléchir sur la suite. Parce que nous avons encore le droit de faire un recours en cassation devant le Conseil d'État. Mais cette décision relève de la compétence du parti.
L'avocat de Toudzra Valmanan, au micro de Sarah Teto. Au Burkina Faso, une attaque terroriste sur un convoi entre Dori et Seitanga a eu lieu samedi après-midi. On ne l'a appris qu'hier. Une colonne de gendarmes et de militaires escortant des transports civils a fait l'objet d'une embuscade près de la commune de Kachirga, non loin de la frontière nigérienne. Ce sont les forces de sécurité burkinabées qui ont payé le plus lourd tribut, avec 4 gendarmes et 14 militaires tombés sous les balles des djihadistes. On dénombre aussi de sources sécuritaires 3 civils tués, mais une source locale évoque plutôt 6 civils tués, dont 2 Nigériens et 14 disparus. João Lourenço à Paris, le président angolais entame une visite d'État en France. Aujourd'hui, elle va durer 2 jours. Une visite alors que l'Angola va bientôt prendre la présidence tournante de l'Union africaine. Au cœur de ce rendez-vous, Claire Fage, l'économie et notamment la conclusion de plusieurs contrats dans le domaine de l'eau ou des satellites.
La visite de João Lourenço en France devrait être l'occasion d'annoncer un contrat important avec l'entreprise française Suez dans l'assainissement, le traitement des eaux usées en Angola. Un financement doit aussi être conclu avec la banque française Société Générale pour l'achat par l'Angola d'un satellite Airbus d'observation de la Terre qui sera fabriqué à Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Il s'agit de cartographier les ressources angolaises en pétrole, en minerais, mais aussi en eau pour l'agriculture. En projet également, un contrat de fourniture d'un hôpital ophtalmologique dans la capitale angolaise. La France souhaite accélérer la diversification de ses investissements, archi-dominés par les activités pétrolières. Cela rejoint le désir des autorités de Luanda de diversifier l'économie angolaise. Pour développer l'agriculture, un accord préliminaire devrait être signé avec l'Agence française de développement sur un énorme projet d'irrigation, tandis que la coopération se poursuit pour reconstituer une filière café. Les discussions porteront également sur le corridor jusqu'au port angolais de Lobito, projet d'infrastructure structure majeure pour acheminer les minerais congolais et zambiens vers l'Atlantique, que la France encourage au même titre que ses partenaires européens et américains.
Claire Fage du service économie de RFI. Et notez que vendredi, le président angolais assistera au forum d'affaires Angola-France qui rassemblera à Paris des entreprises des deux pays au siège du MEDEF, l'organisation patronale française. Et s'il va donc être question d'économie pendant 2 jours à Paris, João Lourenço va également parler du conflit dans l'Est de la RDC. Avant l'arrivée du président angolais dans la capitale française, l'Élysée dit soutenir fortement et activement le processus de Luanda entre Kinshasa et Kigali. Tous les sujets seront mis sur la table, assure la présidence française. Une tentative de relancer donc le processus de Luanda, et ce alors que des combats d'une grande intensité sont signalés dans plusieurs localités du Nord Kivu. Combats entre l'armée congolaise et le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Hier, de violents affrontements étaient encore en cours sur l'axe Ngungu, dans le Massissi, à 70 km à l'ouest de Goma. Plusieurs ONG alertent sur la détérioration de la situation humanitaire. Médecins sans frontières ou encore le Comité international de la Croix-Rouge tirent la sonnette d'alarme face à l'afflux des blessés de guerre. Et c'est dans ce contexte que les évêques catholiques et les responsables protestants de RDC se mobilisent. Hier, ils ont lancé un pacte dit social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs. Une initiative qui pourrait ramener les hommes en soutane dans la médiation des crises. Un appel à adhérer au projet a d'ailleurs été lancé hier à Kinshasa. Monseigneur Donatien Ncholé est le secrétaire général de l'épiscopat congolais.
Pourquoi maintenant? C'est simplement parce que le constat est très amer au regard de ce qui se passe dans le pays, particulièrement à l'Est. 30 ans après, on voit les limites de la guerre, on voit les limites de la diplomatie. Traitant sur terrain, mais c'est une situation humanitaire indescriptible. Nous voulons amener la majorité des Congolais à comprendre que la priorité aujourd'hui, c'est la paix. La paix dans notre pays, la paix dans la sous-région. Ce n'est pas peu de choses de mettre les gens ensemble pour qu'ils se parlent, pour qu'ils se regardent en face. Ce serait intéressant qu'on arrive à des concertations nationales avec des compatriotes congolais qui ont pris les armes pour qu'ils nous disent pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vraiment, comme chrétien, comme africain, trouver d'autres alternatives. La CNQLS se prend l'engagement de faire des plaidoyers au niveau des principaux acteurs sociopolitiques. Nous pensons que cette pierre que les deux églises veulent apporter avec tous ceux qui vont adhérer, ça peut être une solution.
Monseigneur Donatien de Cholet, au micro RFI de Pascal Moulégois. En bref, le Rwanda affirme avoir identifié de potentiels puits de pétrole dans les profondeurs du lac Kivu. La présence de l'or noir n'est pas encore confirmée. Pour le savoir, il va falloir forer. Les recherches durent depuis plus d'une décennie sur place. En 2017, Kigali et Kinshasa avaient même signé un accord d'exploration de 5 ans sur ce lac qu'ils partagent. Ces conclusions n'ont pas été rendues publiques. En Afrique du Sud, après l'opération de sauvetage des mineurs de Stilfontein, place à la polémique. Depuis lundi, les autorités ont remonté 78 corps sans vie et 246 survivants de cette mine d'or abandonnée. La nacelle doit encore descendre aujourd'hui pour vérifier qu'il n'y a plus personne. Désormais, cette question, le gouvernement est-il responsable de ce drame? C'est en tout cas ce qu'estime une partie de l'opinion publique, puisque les forces de l'ordre encerclaient la mine depuis plusieurs mois, restreignant l'approvisionnement en nourriture pour forcer les mineurs illégaux à sortir. Mais les autorités défendent ces actions, Claire Bargelès.
La police clame n'avoir fait que son travail de lutte contre la criminalité et pointe du doigt les chefs des réseaux qui attirent les migrants pauvres des pays voisins, du Mozambique, du Zimbabwe ou du Lesotho, en leur faisant miroiter des opportunités d'emploi, puis les envoyant sous terre pour les exploiter. Elle accuse même ces gangs d'avoir confisqué de la nourriture qui était destinée aux mineurs et de les avoir obligés à rester retranchés. Mais les communautés locales, les familles et des organisations de la société civile souhaitent pour leur part que les pouvoirs publics reconnaissent leurs responsabilités, leur reprochant de n'avoir pas écouté les appels à l'aide, laissant ces mineurs mourir de faim et de déshydratation. Pour la SAFTU, l'une des grandes confédérations syndicales du pays, il est clair que le gouvernement sud-africain a permis à la situation de se détériorer jusqu'à ce résultat. L'Alliance démocratique, la deuxième force politique du pays, réclame désormais qu'une commission d'enquête soit mise sur pied afin d'établir si des torts ont été commis lors de cette opération de police et également pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
L'Afrique du Sud qui a salué hier l'accord de cesser le feu entre Israël et le Hamas. Il s'agit, selon le ministère des Affaires étrangères sud-africain, je cite, d'un premier pas crucial pour mettre fin à la sévère crise humanitaire qui concerne 2 300 000 Palestiniens de la bande de Gaza et que la Cour internationale de justice estime être possiblement génocidaire. Fin de citation. Le pays est à l'origine d'une procédure auprès de cet organe judiciaire pour tenter de prouver qu'Israël est en violation de la Convention sur le génocide. Un mot de sport avant de refermer ce journal. Ça y est, on connaît l'affiche du CHAN. Le tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations a eu lieu hier, c'était à Nairobi au Kenya. Le tournoi, initialement prévu en février, a été reporté au mois d'août pour moderniser les infrastructures. Les 19 équipes ont été réparties en 4 groupes pour les premiers matchs. Notre correspondante à Nairobi, Alban Tiroir, a assisté au tirage au sort, reportage.
Danseurs et concerts d'une star kenyane, l'ambiance s'est voulue festive à Nairobi pour le tirage du CHAN, malgré les incertitudes qui pèsent sur le championnat. Une date repoussée, deux équipes qui doivent encore se qualifier et des infrastructures qui ne sont pas prêtes. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, s'est voulu rassurant. Absent à Nairobi, il a adressé un message vidéo.
Les stades ont été modernisés, un grand travail de rénovation est en cours. C'est motivant et surtout très inspirant de constater qu'au plus haut niveau, au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, il y a une détermination et une passion pour le développement du football. Nous avons foi en notre capacité d'organiser avec succès le CHAN au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.
Le président du Kenya, annoncé, était finalement absent lors du tirage, comme la plupart des présidents des fédérations. Pour motiver l'Assemblée, un mot d'ordre a été répété tout au long de la soirée. Les trois pays hôtes seront prêts pour accueillir le CHAN en août. Salim Vouria, ministre en charge des sports au Kenya.
Nous saluons la décision de repousser le tournoi au mois d'août. Nous voyons ce report comme une opportunité pour devenir un centre d'excellence dans l'organisation de ce genre de tournoi.
Une nouvelle phase de qualification a été ouverte pour sélectionner les deux équipes manquantes. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
Et le tirage au sort complet du Shan est à retrouver sur notre site RFI.fr. Il est 3h45 en temps universel.
Afrique Matin sur RFI.
Voilà pour le journal. Restez avec nous dans les prochaines minutes. On part pour l'Afrique du Sud à la rencontre d'une association qui veut faciliter l'accès aux livres en braille. Direction ensuite le Togo. On enfile nos bottes pour visiter la plus grande ferme d'élevage de poissons du pays. Et puis la chronique des matières premières. Ce matin, Marie-Pierre Olfan nous parle d'uranium. Son prix a triplé en 4 ans et vous l'entendrez, cela intéresse de plus en plus d'acteurs. Comment rendre la littérature plus accessible aux déficients visuels? En Afrique du Sud, l'association Blind SA tente depuis plusieurs années de répondre à cette question. Blind SA, c'est le principal traducteur en braille du pays. Sauf que la loi est très stricte. Pour convertir un livre en braille, il faut donc le rendre accessible au plus grand nombre, il faut systématiquement demander les droits d'auteur. Blind SA se bat pour lever cette restriction. Une nouvelle loi était censée exempter certains livres, mais son application est toujours bloquée. RFI Reportage, Valentin Hugues.
Ici, nous avons une tablette en métal avec un stylet. C'est comme ça qu'on écrivait en braille à l'époque. Ensuite, nous avons cette petite machine manuelle, mais elle est trop vieille. On ne l'utilise plus aujourd'hui.
Aujourd'hui, ces anciennes machines à écrire en braille sont des pièces de musée. Ofense Manyane nous emmène dans l'atelier de l'association.
Cette machine imprime 1000 pages par heure.
Une grosse machine connectée à un ordinateur, les pages en braille sortent les unes après les autres.
Là, par exemple, c'est un livre politique pour le Botswana. On imprime pour toute l'Afrique, pas seulement pour l'Afrique du Sud.
Une activité perturbée par les droits d'auteur, nécessaire à chaque conversion en braille. Christo de Clercq, président de l'association.
9 fois sur 10, nous n'avons pas les droits et nous ne pouvons pas convertir. Ce n'est même pas qu'on nous les refuse, mais dans 90% des cas, ils ne se donnent même pas la peine de répondre à notre demande de droits.
Puis vient l'espoir après des années de combat. Un nouveau projet de loi sur la protection des œuvres stipule que pour une conversion en braille, il n'y a plus besoin de demander les droits. Seulement, c'est le blocage politique. Le projet de loi enchaîne les allers-retours entre le Parlement et le Conseil constitutionnel depuis 2017.
La section 19D stipule exactement ce que nous avons toujours demandé. Mais la loi n'a toujours pas été promulguée car les politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord sur d'autres points de cette loi. Et nous, nous sommes les otages de ces désaccords.
Je suis Jace Nahir, le PDG de Blind SA. Seulement 0,5% des œuvres sont disponibles en contenu accessible et automatiquement, ça réduit notre accès à l'éducation.
Quand j'étudiais l'espagnol, par exemple, j'ai demandé la conversion d'un livre très important, mais nous n'avons pas réussi à obtenir les droits. Résultat, j'ai dû abandonner mes études d'espagnol.
8 ans donc que Blind South Africa milite pour que cette loi soit enfin signée, pour convertir n'importe quel ouvrage en braille en toute liberté, sans en demander systématiquement les droits d'auteur. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Un reportage à retrouver sur notre site RFI.fr.
RFI, toute l'actualité, Arthur Ponchelet.
Les grands titres de l'actualité internationale de ce jeudi 16 janvier, avec d'abord un accord pour un cessez-le-feu, une libération des prisonniers palestiniens et une libération d'otages israéliens après 15 mois de guerre et une petite semaine d'intense pourparlers. Israël et le mouvement armé Hamas se sont mis d'accord hier en fin de journée. L'accord entre en vigueur dimanche pour une durée de 6 semaines. Il sera suivi par les 3 pays médiateurs, l'Égypte, le Qatar et les États-Unis. RFI décrypte la situation ce matin avec plusieurs invités. Entre 6h et 6h30, heure de Paris, et 8h et 8h30, heure de Paris. La Russie a lancé hier près de 120 missiles et drones contre le réseau énergétique ukrainien. Ces frappes interviennent au lendemain de la revendication par l'Ukraine de l'attaque la plus massive sur le sol russe depuis le début de la guerre, qui a visé, selon elle, des sites industriels et militaires dans plusieurs régions. Une attaque qui est intervenue pendant la visite du président Zelensky en Pologne. Élevé. élever son poisson soi-même pour éviter d'importer de ses voisins. C'est l'équation que tente de résoudre le Togo. Le pays est un gros consommateur de poissons, plus de 105 000 tonnes en 2022. Seulement voilà, seule une petite partie de ces poissons est produite localement. Alors pour y remédier, certains se lancent dans l'élevage. Exemple ce matin, dans le petit village de Nangbeto, c'est à 200 km au nord de Lomé. C'est là que se trouve la plus grande ferme d'élevage de poissons du pays. Plus de 300 personnes y travaillent jour et nuit. Notre correspondant au Togo, Peter Sassou Dogbé, s'est rendu sur place. C'est l'Afrique Écho du jour. Reportage.
Après un premier essai dans la banlieue est de Lomé, Pierrot à Kakbouvi, transitaire de formation, décide d'aller s'installer sur le site du barrage hydroélectrique fin digue de Nangbeto.
Bruyère, la profondeur et tout ce qui accompagne la qualité de l'eau et choses de l'environnement.
C'est plus spacieux aussi.
C'est plus spacieux. Le barrage de Nangbeto fait 180 km².
12 000 hectares, dont 2 à 6 hectares en terre ferme, sont exploités. Une profondeur conséquente de l'eau, comprise entre 5 mètres et 20 mètres, le lieu est bien trouvé. Il y produit des aliments pour la consommation des poissons. Ce jour-là, le moulin tourne, on est à la production des aliments. Comme il est sur la machine, pour moudre, un mélange de farine de blé, de maïs, de soja, de la sonde, du manioc sec et des asticots.
Des fois, bon, s'il n'y a pas les coupures de laissage, on fait 230, 250, mais si les machines ont des problèmes, des fois ça n'atteint pas comme ça.
Dehors, des bacs au sol contiennent des milliers d'alevins qu'il faut nourrir et oxygéner. Nicolas surveille. Un long processus pour arriver au gros poisson d'au moins 500 grammes. Pierrot à Kapoumi, le promoteur.
Nous sommes à plus de 13 tonnes de nourrissage jour. Vous imaginez, vous le prenez par jour. Avec un truc moyen de 800 francs, vous voyez ce que ça fait. C'est plus de 10 millions qu'on jette dans l'eau chaque jour.
Le Togo a besoin de 6 à 7 000 tonnes de tilapia chaque année. Et Pierrot à Kakovi souhaite apporter sa pierre à l'édifice.
Nous sommes aujourd'hui à près de 30-35% de production. Et c'est ça qu'on a fait en 2024. Donc cette année, nous sommes en train de vouloir aller au moins à 50% de ce que ça va faire. Ça voudra dire qu'on sera tout de 3500 tonnes cette année.
3500 tonnes, c'est l'objectif à atteindre en 2025. Pour l'instant, l'Ortifarm n'exporte pas ses produits. Peter Sassou-Dogbé, de retour de Nangbeto, RFI.
Un reportage à retrouver sur notre application RFI Pure Radio. La chronique des matières premières. Ce matin, on parle d'uranium dont les prix ont triplé en 4 ans. Résultat, certaines réserves qui n'étaient pas rentables jusque-là deviennent de plus en plus intéressantes et le marché se redessine. C'est en tout cas ce que montre une étude de l'Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques. Marie-Pierre Olfan.
La hausse des prix de l'uranium est d'abord un moteur pour les producteurs historiques que sont le Kazakhstan, le Canada ou encore l'Australie, pour n'en citer que trois. Et puis, il y a les États dont les réserves oubliées ou délaissées deviennent, au prix actuel du marché, beaucoup plus intéressantes. Parmi ceux qui se réorganisent, on peut citer le Brésil qui a lancé en 2022 un grand programme de prospection et d'exploitation. Une seule mine est pour l'heure en activité, mais les réserves identifiées seraient énormes, on parle de 300 000 tonnes. La situation est moins évidente en Mongolie, mais le pays est identifié comme un potentiel Eldorado de l'uranium. On trouverait sur ce territoire les plus importantes ressources de minerais radioactifs du monde. On pourrait parler aussi du Kirghizistan qui vient de lever le moratoire sur l'exploration de l'uranium instauré il y a 5 ans et de la Tanzanie sur le continent africain qui développe ses ressources avec la Russie comme partenaire privilégié. Ces quatre pays pourraient permettre d'avoir une production d'uranium moins concentré qu'aujourd'hui, mais il s'agit de perspectives à long terme. L'évolution du marché et l'entrée en guerre de la Russie en Ukraine a en parallèle redessiné les routes d'approvisionnement. Le Kazakhstan, premier producteur mondial, privilégie de plus en plus des itinéraires qui ne traversent pas la Russie. En 2023, plus de 60% des exportations de Kazatomprom vers le marché occidental ont pris le corridor qui passe par la mer Caspienne et qui connecte les principaux centres de production production kazakh à la Méditerranée. Une autre route est également appelée à devenir de plus en plus essentielle pour assurer le commerce d'uranium, cette fois-ci entre le Kazakhstan et la Chine. La construction d'un entrepôt logistique dans la ville frontalière d'Alachankou d'ici 2026 matérialisera les nouvelles ambitions de ce corridor de l'uranium hautement stratégique.
La chronique des matières premières, signée Marie-Pierre Olfan. Et avant de retrouver Martin Guèze pour le journal, on fait un détour par l'océan Indien. On fait le point sur l'actualité des territoires français avec nos confrères de La Première. À la une, un cyclone comme on n'en avait pas connu depuis 1934, quelques jours avant Noël. Une tempête tropicale et des trompes d'eau en guise de cadeau du nouvel an. Mayotte et ses habitants ne garderont pas le meilleur souvenir du dernier mois de 2024 et du premier de 2025. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour. Et la saison cyclonique est encore loin, très loin d'être terminée dans le sud-ouest de l'océan Indien, ce qui n'empêche pas la vie de reprendre son cours, malgré tout, dans le département 101. Le point avec Chafanti Alibako.
Mayotte revient de loin et remonte doucement la pente. Un mois après le cyclone Chido, le réseau électrique dépasse les 80% de foyers alimentés dans une majorité de communes. Il avait été lourdement impacté, à l'image d'Akwa. La totalité des ménages vivait il y a peu sans électricité. Elle est rétablie dans 83% des habitations. D'après la préfecture, 90% des abonnés auraient retrouvé le réseau téléphonique. S'il était difficile de se ravitailler en carburant aux premières heures de la crise, à ce jour, 6 stations essence sur 8 sont désormais ouvertes. Seules celles de Longoni et Chirongi sont fermées. Le réseau d'eau a lui aussi été rétabli dans l'ensemble des foyers selon le planning de tours d'eau de la SMAE. Le réseau routier a presque été entièrement dégagé, parfois sous l'impulsion de la population elle-même. La départementale entre Chungi et Timkoura reste pour l'heure inaccessible. Dans les transports, les vols commerciaux arrêtés avant la tempête d'Ikeledi ont repris hier, tout comme les rotations de barges, même s'il faut compter avec son lot de désagréments. Côté santé, toutes les pharmacies de l'île sont à ce jour opérationnelles. Pour rappel, un couvre-feu reste en vigueur dans notre territoire. Il prend effet à 22 heures.
Et pendant ce temps-là, les maires du département continuent à évaluer l'étendue des dégâts causés par Chido, une tâche bien loin d'être achevée, mais évidemment indispensable. Hier, mercredi, ils se sont rendus dans le sud de la Grande Terre, une région plus ou moins épargnée par le cyclone du mois de décembre, mais copieusement inondée par la tempête du mois de janvier. Abdou Rachadi est le maire de la commune de Kanikeli.
Ce déplacement, on l'a fait par solidarité pour se soutenir entre nous les maires, parce qu'il y a eu quand même deux gros événements qui sont succédés et qui sont très rapprochés, qui a causé beaucoup de dégâts au sud pour ce dernier, et qu'il était important pour la solidarité des élus que tout le monde vienne constater ces dégâts-là pour qu'on puisse par la suite quantifier et estimer ces dégâts-là et demander un soutien financier à l'État français. En tout cas, en ce qui concerne ma commune de Kanikeli, il y a eu beaucoup de dégâts d'inondation, donc des dégâts des eaux. Il y a eu beaucoup de ruissellement, des glissements de terrain sur certaines maisons. D'ailleurs, on va le voir. Ces maisons-là, il y en a beaucoup qui risquent de s'effondrer. Donc, il y a un besoin urgent à ce qu'on puisse réparer surtout ces dégâts de glissements de terrain, parce que sinon, il y a des familles qui risquent d'être en péril. Et c'est d'ailleurs ce que nous a demandé le préfet de Mayotte, de faire un arrêté de mise en péril immédiat de ces populations-là. Pour le moment, on n'a pas encore fait de demande. Nos services sont en train d'y travailler. Et donc, d'ici la fin de la semaine, on aura fait ce travail-là. On verra à l'État, par le biais de l'association des maires de Mayotte, pour demander en tout cas une aide globale sur l'ensemble des communes de Mayotte.
Un mot de l'actualité réunionnaise pour terminer. Alors que les distributions d'eau potable se poursuivent à Saint-André, dans l'est de la Réunion, Saint-André frappé par la sécheresse, la commune se dit favorable à un report de la rentrée scolaire, prévue en principe lundi prochain, le temps, dit-elle, d'installer des citernes pour alimenter les sanitaires. Fin de cette édition. Bonne journée.
Bonne journée à vous aussi, Benoît, et à demain. Et c'est ainsi que s'achève cette demi-heure d'information africaine, préparée et réalisée ce matin avec Thierry Le Saint et Vincent Dublange. Merci à eux. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous rappelle le programme. À partir de 5h, temps universel, on revient avec nos invités sur le cessez-le-feu à Gaza. D'ici là, vous restez avec nous sur RFI. Dans 30 secondes, un nouveau journal.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Sérieux et fantaisiste, Jean Echenoz est un écrivain français qui ne cesse de nous surprendre. Dans son nouveau roman intitulé Bristol, il met en scène un réalisateur de films sans succès qui part faire un tournage sur le continent africain. Mais là, rien ne se passe comme prévu. Heureusement, l'humour sauve tout.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.